Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Séverine avec moi, Séverine, là on est quelque part à l'ombre d'un arbre près de l'école Steiner. On va assister tout à l'heure à un concert de mantra. Là, on va faire une rencontre radiophonique, donc l'émission s'appelle « Regard d'ailleurs ». « Regard d'ailleurs », c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde, à travers des parcours de vie, à travers différentes expériences. J'aime bien donner la parole à des écrivains, des réalisateurs, des voyageurs. Là, avec moi, Séverine, je sais peu de choses de toi encore, mais l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps de te rencontrer, de te découvrir. Et on va orienter cette émission sur le thème du voyage, de l'Inde, du yoga, parce que je sais que tu es prof de yoga. Je crois que tu fais venir aussi, ou en tout cas, j'ai dû voir passer des publications où tu es en présence de lamas. Donc sûrement le bouddhisme prend aussi place un petit peu quelque part là-dedans dans ton existence et dans ton histoire de vie. Et tu es suisse, voilà, c'est tout ce que je sais. Donc on va revenir un peu en arrière, et je m'intéressais à toi Séverine, quand tu commences à voir les yeux qui regardent au-delà des frontières de la Suisse. C'est quand tout ça, et qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu, toi, prendre la route pour aller découvrir, explorer ce qui se passe en dehors de ton territoire, de l'Europe?
Alors, j'avais 25 ans. Et j'étais dans une rupture amoureuse qui était vraiment douloureuse. J'avais pas trop confiance en moi, mais j'avais été bercée toute mon adolescence par les photos d'Olivier Feulmy. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'aille là-bas. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'aille au Népal. Et je sais pas, c'était une certitude qu'il fallait que je parte. J'étais timide, mais j'étais aussi... c'était un défi pour moi de partir seule avec mon sac au dos j'ai pris cette décision. Je suis partie, j'étais complètement en angoisse à l'aéroport, je pleurais tout ce que je pouvais avant de monter dans l'avion, mais je l'ai fait et je suis arrivée au Népal et en fait ça a bouleversé toute la suite de ma vie.
Donc là, tu as 25 ans, tu vois des photos d'Olivier Feulmy, hein, qui est un photographe voyageur humaniste, qui s'est fait connaître à travers un reportage aux Anskars, le fleuve gelé, où on voit des photos absolument magnifiques des populations tibétaines exilées dans le nord de l'Inde. Les Tibétains, on les retrouve aussi d'ailleurs dans une grande partie du Népal. Donc toi, à 25 ans, tu vois ces photos, tu rêves d'ailleurs, tu prends seul ton avion pour aller à Katmandou.
Exactement. Et j'arrive à Katmandou et de façon assez paradoxale, c'est le Lonely Planet qui va m'amener à découvrir le bouddhisme, parce que dedans c'était écrit si vous intéressez au bouddhisme, il y a un monastère à Katmandou qui accueille les Occidentaux et qui leur donne des initiations, des enseignements. Donc n'hésitez pas à y aller. Et je me suis dit, en fait, c'est là que je dois aller. Et donc, je suis montée au monastère de Copan. Et c'était la saison de la mousson. C'était l'été, donc il y avait très peu de monde. Il n'y avait pas des programmes vraiment officiels. Et j'ai rencontré une nonne qui était là-bas et qui donnait des méditations tous les matins et qui était à disposition des questions. On pouvait utiliser la bibliothèque. Et j'ai passé une semaine là-bas. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tout ce que je sais déjà, mais que je veux approfondir. C'est des choses qui m'ont parlé directement à mon cœur et qui m'ont parlé dans l'expérience, parce que j'étais en recherche intérieure de réponses, de pratiques. Jusque-là, j'étais dans un chemin très chrétien, mais je voyais les limites pour moi. Et là, tout ce qui était dit m'apparaissait tellement juste et tellement profond. Et comme si c'était des choses que j'avais déjà connues, en fait. Il y avait quelque chose de très familier aussi.
Avant de continuer cette histoire, ce chapitre au Népal, je reviens quand même à l'avant. Donc toi, tu vois une photo, enfin tu vois des photos d'un photographe. Comment est-ce que tu expliques le pouvoir de l'image? Comment est-ce qu'une image peut donner envie comme ça d'aller à l'autre bout de la planète, seul avec son sac à dos? C'est quand même complètement incroyable.
C'est complètement incroyable. Je vais donner une explication qui n'est pas très rationnelle pour beaucoup de gens. Je pense que j'ai dû vivre des vies passées dans ces endroits-là. Pour moi, c'est l'explication que je trouve. Pour moi, il y a comme ce côté très familier. Il y avait plein d'endroits au Népal, notamment à Katmandou, j'avais l'impression d'être à la maison. Et donc, pour moi, je l'explique de cette manière-là.
Alors, c'est vrai que notamment dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, hein, la réincarnation fait partie du processus. Hein. C'est vrai qu'on aurait plusieurs vies. Et donc, tu vas au Népal, tu te retrouves là-bas à Katmandou, tu découvres le bouddhisme parce que tu lis un texte dans Lonely Planet. Donc là, tu as quand même 25 ans. Est-ce que tu sais combien de temps tu vas y rester ou comment ça se passe? Est-ce que tu es parti avec un aller simple ou remets-nous un petit peu le contexte de Séverine qui arrive à l'âge de 25 ans à Katmandou, qui est une ville grouillante.
Alors, j'étais très effrayée au départ, ça c'est sûr, la conduite, la foule, enfin tous mes repères qui étaient extrêmement différents. Mais d'être dans ce monastère m'a rapidement apaisée et puis, en fait, j'y ai trouvé ma place. Donc j'étais partie pour 5 semaines, le premier voyage que j'ai fait, j'avais besoin de cadrer pour me rassurer. Donc j'avais prévu plein de choses. Tout en laissant assez ouvert, j'avais rien réservé, mais j'avais prévu dans ma tête. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait un trek dans l'Himalaya. Et après, je me suis dit, mais il faut que je retourne au monastère, en fait. Donc, j'ai changé mes plans et je suis retournée au monastère pour approfondir. Et en partant, c'était extrêmement difficile pour moi de dire au revoir. J'ai rencontré le lama du monastère de Kopan, qui s'appelle Lama Lundrup. Qui est décédé entre-temps, mais qui m'a reçu et il a vu que j'étais pas bien et il m'a dit, il connaissait rien de moi, donc c'était aussi très bluffant pour moi. Il m'a dit, tu sais, tes élèves t'attendent pour la rentrée. Ok. Et dans sa phrase, il y avait quelque chose d'avoir la confiance que je reviendrai, en fait, et que c'était pas une fin, que c'était juste quelque chose qui m'attendait parce que j'étais engagée, mais que j'allais revenir, et immédiatement en rentrant, je savais que je reviendrais. Et là, la deuxième fois où je suis partie, j'ai pris un billet ouvert.
Tu dis un premier voyage qui a changé ta vie.
Oui, parce que ça m'a apporté déjà de la confiance en moi, de pouvoir faire quelque chose comme ça. Ça m'a remis dans ma responsabilité aussi, de dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis, ça a été le début de mon chemin spirituel que je poursuis encore aujourd'hui, 25 ans après. Donc, ça a été vraiment un tournant, c'est sûr. Ouais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc tu es retourné à plusieurs reprises hein, en Inde, au Népal, donc ensuite en Inde. Donc le fil rouge a toujours été la spiritualité, le bouddhisme, où on revient un petit peu sur ton itinéraire. Qu'à 25 ans, on comprend que tu découvres le bouddhisme tibétain, hein, bien celui dont on parle, parce que là on est au Népal et il y a différentes formes de bouddhisme. On pourra peut-être un peu en parler après si tu veux. Mais donc là on parle vraiment du bouddhisme tibétain. Donc est-ce que ça a été vraiment le fil rouge hein, d'un voyage à un autre?
Alors les années qui ont suivi cette année-là ont été vraiment déterminée par le bouddhisme tibétain. Je suis retournée au Népal pour faire plus de retraites. Je suis allée en Inde, dans d'autres centres du bouddhisme tibétain. J'ai vraiment exploré, c'était surtout en Inde, après ça, toute cette dimension de retraite spirituelle en silence qui me parlait parce que je comprenais l'importance de prendre soin de mon esprit et l'importance de connaître qui je suis et d'aller explorer cette dimension du cœur, de la compassion et cette dimension de la sagesse, qui sont les deux grandes ailes du bouddhisme tibétain, hein, ou du bouddhisme en général, mais de compassion, amour et de sagesse, et vraiment d'aller explorer ça. Après, dans les années qui ont suivi, j'ai été explorer d'autres pays d'Asie, parce que c'était vraiment là que mon cœur m'attirait, donc j'ai été en Mongolie, j'ai été en Birmanie, Oui, j'ai fait plusieurs voyages, mais je pense que mon cœur est vraiment, même si j'ai eu des très très belles expériences, mon cœur est resté dans ces monastères où les enseignements étaient transmis.
Quand on se retrouve dans un monastère et qu'on s'intéresse à une philosophie ou à une spiritualité, donc là on parle du bouddhisme, se pose à un moment donné la question de ce qu'on fait le choix de prendre refuge et de devenir nonne. J'imagine que cette question tu te l'as peut-être posée aussi dans ton parcours, donc voilà, comment est-ce que tu as dealé avec cette, peut-être cette pensée hein, qui est de vouer ou de dévouer en tout cas sa vie à la méditation, à la prière ou rester laïque. Comment est-ce que tu as dealé avec cette question qui est forcément à un moment donné venue à toi?
Alors la question s'est posée, honnêtement. Après, je pense que ça n'a jamais été quelque chose qui m'a appelée à 100%. J'ai toujours eu des doutes. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans le monde. J'ai pas une âme d'ermite. Et je pense que j'ai pas assez de renoncement aussi. Dans le sens où pour être moine ou nonne, il y a un fort renoncement. C'est un terme qui est très présent dans le bouddhisme. Hein, c'est-à-dire qu'on comprend profondément que le bonheur n'est pas dans les choses à l'extérieur. On comprend que le bonheur, on va le trouver à l'intérieur. Et je pense que là où j'en suis encore à l'heure actuelle, j'ai encore par moments, et même souvent, des impulsions de trouver ce bonheur à l'extérieur. Mmh. Donc, et je pense que pour faire ce choix vraiment d'être moine ou nonne, il faut voir que le bonheur n'est pas là. Et après, il y a ce renoncement aussi à la relation de couple qui est importante et à laquelle je crois je ne suis pas encore prête. Ouais. Donc, c'est aussi d'être honnête avec ça, même si le chemin est par vague. Hein, je peux avoir des moments où j'y pense, des moments où j'y pense plus. Mais je pense que pour moi, vivre ma vie spirituelle dans le monde est un exercice extrêmement intéressant et riche. Donc, j'ai pas besoin de me dire je vais aller vivre dans un monastère et sortir de ce rythme. Et puis après, il y a des considérations qui sont purement matérielles aussi. Il faut avoir quand même des ressources parce qu'en Occident, un moine ou une nonne occidentale doit avoir de quoi subvenir à ses besoins. Il n'y a pas de subvention. Enfin, il faut trouver des gens qui nous sponsorisent, en fait. Donc, c'est pas. Ça, c'est aussi une autre question qui est purement pratique.
Mais c'est pas la sangha. Je pensais que le temple pouvait subvenir aux besoins matériels des différents moines et différentes nonnes, non?
Alors ça, c'est le cas en Asie, mais c'est pas le cas en Europe. Non, non.
Le bouddhisme, on va peut-être en parler un petit peu quand même. Donc, il y a différentes manières de l'aborder hein, sous la forme de la religion hein, quand on fait les choix monastiques, mais c'est peut-être aussi une philosophie de vie. Comment tu présenterais le bouddhisme à quelqu'un qui ne connaît pas? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une spiritualité? Comment le définir?
Alors, pour moi, c'est clairement une philosophie. Je pense que pour certaines personnes, c'est une religion. Donc, je crois que ça dépend comment on appréhende la chose et comme pour tout en fait. C'est-à-dire que la réalité de cette existence, elle est dans mon propre esprit. Donc moi, je vais en parler en tant que philosophie. Je pense que pour moi, ce qui est extrêmement intéressant dans le bouddhisme, c'est que c'est une approche qui est très psychologique en fait, qui est très « je comprends ». Comment je fonctionne, je comprends mes émotions, je comprends qu'est-ce qui me fait du bien, je comprends qu'est-ce qui me fait du mal, je comprends qu'est-ce qui fait du bien autour de moi, qu'est-ce qui fait du mal autour de moi. Et la première chose pour moi qui est importante dans le bouddhisme, c'est l'éthique. L'importance de l'éthique pour pouvoir apaiser notre esprit, pour pouvoir être aligné. Parce qu'en fait, quand on n'est pas éthique, on fait du mal autour de soi et du coup on se déconnecte des êtres, on crée des choses qu'on peut regretter, on est dans une attitude où il y a cet égocentrisme ou pas du reste, hein, parce que ça peut être des habitudes qu'on a acquises qui nous font réagir comme ça. Et l'idée c'est de développer déjà, pour moi en tout cas dans ce que j'ai intégré, cette première étape d'éthique qui est vraiment extrêmement fondamentale pour moi parce que elle nous permet de nous relier aux autres êtres. Et c'est cette notion d'interdépendance qu'on peut voir ensuite dans la sagesse bouddhiste, hein, de comprendre qu'on n'existe pas là tout seul, dans notre coin. On est relié aux autres êtres pour tout, pour notre nourriture, pour nos vêtements, pour notre existence, nos parents qui permettre de grandir quand on est bébé, quand on est un petit enfant, qui nous protège, et en fait on est des êtres extrêmement reliés et dépendants. Et ça, c'est peut-être des choses qu'on oublie quand on est dans ces émotions qui sont difficiles et où on est en réaction. Donc cette notion d'interdépendance, cette notion d'éthique et de développer l'amour et la compassion, parce que de nouveau, si je suis reliée à tous les êtres, je souhaite leur bien et je peux, si je vois ma souffrance, je vois la souffrance des êtres. On parle du samsara, c'est un terme qui est très utilisé en Occident. Le samsara, c'est de comprendre la nature de notre existence, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de souffrance dans les existences de tous les êtres. Et peut-être qu'on ne les voit pas parce qu'on projette sur eux des existences idylliques, mais la réalité du samsara, le premier enseignement du Bouddha, c'est de dire que la vie est souffrance. Mais qu'après, il y a des causes. Et que si on comprend ces causes et qu'on travaille sur ces causes, eh bien, il y a un chemin et il y a une libération des souffrances.
On peut en parler de la souffrance, ce mot souffrance, hein, parce que dans le bouddhisme, effectivement, on parle des causes de la souffrance, mais je pense que si on n'est pas habitué à ces termes-là, on se dit, bah non, la vie, c'est pas souffrance du tout. Mais je reviens aussi sur la notion du sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on est un peu dans une sorte de quête d'existence, d'essentiel, hein, dans un monde où sévit une famine de l'essentiel. Et on est là, effectivement, essayer de trouver une direction. Tu parlais aussi d'alignement. Et je crois que le bouddhisme répond aussi quelque part à ça, remettre un petit peu de conscience sur notre quotidien. Tu parlais d'interdépendance, se rendre compte qu'on est tous interdépendants, reliés les uns des autres. Et cette notion de sens me paraît hyper importante. Donc dans le bouddhisme, c'est vrai qu'on parle beaucoup des causes de la souffrance et de la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance, qu'est-ce qu'on entend par le mot souffrance et quelles peuvent être ses causes?
Alors la souffrance, c'est pas forcément ce qu'on entend habituellement par souffrance ici. Nous, quand on parle des souffrances, on pense les souffrances physiques, on pense les souffrances mentales, et puis on s'arrête là. Hein. On va éprouver de la compassion pour quelqu'un qui a mal, on va éprouver de la compassion pour quelqu'un qui pleure. Par contre, la souffrance dans le bouddhisme tibétain, elle est expliquée de façon beaucoup plus vaste. On a la souffrance du changement, par exemple, qui est que les choses ne durent pas et que pourtant on s'accroche, on aimerait qu'elles se poursuivent, mais elles changent. Il y a l'impermanence, ça c'est aussi une notion qui est très importante dans le bouddhisme.
Donc, donne-moi un exemple, hein, un peu imagé, la souffrance du changement, par exemple. Ça veut dire tu vas avoir un objet auquel tu tiens beaucoup et hop, tu vas le perdre. Donc du coup, ça peut induire une forme de changement parce que ton objet fétiche ou je sais pas, ta cuillère en bois que t'aimes beaucoup, elle va casser dans la vaisselle et ça peut générer une forme de souffrance. Donc là, on parle de souffrance, c'est ça?
C'est exactement ça. Ça peut être plus subtil aussi. C'est-à-dire que tu as froid, tu vas te réchauffer au soleil, mais au bout d'un moment, comme là c'est en plein été, tu te dis, ah ben là il fait un peu trop chaud, donc je vais retourner à l'ombre. C'est de se dire que finalement, on est soulagé d'une souffrance, j'ai froid, je vais au soleil, je vais être soulagé d'une souffrance, mais au bout d'un moment, il y a une autre souffrance qui va survenir, donc je dois la soulager autrement. Et c'est un peu ce cycle qui ne se termine pas, d'alternance, parce que en fait, le plaisir qu'on éprouve, il peut aussi être vu comme un soulagement d'une souffrance qui est j'ai faim, je vais manger, j'avais faim, c'était la souffrance, je vais manger. Mais si je mange trop, si je continue si le plaisir est dans le fait de manger, si je continue de manger, je devrais continuer d'éprouver du plaisir plus je mange. Mais on sait bien tous que plus on va manger et si on mange vraiment pendant des heures, ça va se tourner en souffrance. Donc ça, c'est la souffrance du changement.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette phrase que j'aime bien aussi, qui dit l'important c'est pas la destination, c'est le chemin. Donc ce chemin qui dure depuis 25 ans, si j'entends bien, avec des voyages réguliers en Inde et au Népal, avec aussi d'autres pays d'Asie. Donc se pose quand même la question, quand on revient de voyage, ben, t'as toute la société civile, t'as la pression sociale et familiale qui dit « Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu fais Séverine ? Comment est-ce que tu fais pour t'insérer dans ce système et gagner ta vie ?» Parce qu'on peut pas que vivre d'amour, d'eau fraîche et de voyage.
Alors complètement. Alors après moi j'ai la chance d'avoir un métier, je suis enseignante spécialisée, donc j'ai un métier qui permet d'intégrer déjà... D'intégrer cette pratique dans le quotidien. Ça ne veut pas dire que je vais être bouddhiste au travail, ça veut juste dire que tous ces exercices de patience, d'amour, de compassion, c'est de la pratique directe. Donc c'est un métier dans lequel je peux mettre en pratique ce à quoi j'aspire. Après, ça m'a aussi donné une liberté, parce que le métier d'enseignant spécialisé en Suisse, j'ai une chance incroyable, il y a plus de postes d'enseignant spécialisé que d'enseignant spécialisé, donc je suis très recherchée. Ce qui a été une chance pour moi, parce que du coup, je pouvais dire, j'ai besoin de prendre un congé non payé, est-ce que c'est possible ? Oui. Et ça a été ma chance, parce que je pense que clairement, dans beaucoup de métiers, les gens sont coincés, les gens peuvent se sentir enfermés parce qu'il y a peut-être des peurs de ne pas retrouver, et qui sont légitimes, qui sont totalement justes, hein, qui sont basées sur la réalité. Alors que moi, j'ai toujours ressenti que je pouvais avoir cette liberté-là, et je comprends ma chance. Vraiment, pleinement.
Je reviens au Népal. Je m'intéressais peut-être aussi un petit peu à cette culture tibétaine, au bouddhisme tibétain. Donc le Tibet, on a tous entendu parler de ce pays hein, qui, une époque, était un pays autonome sur la carte, qui aujourd'hui fait partie intégrante de la Chine. Donc une grande partie de la population tibétaine a dû fuir ses frontières. Donc c'est le seul pays d'ailleurs qui a un gouvernement en exil. À Dharamsala, je crois, ou à Mak Leo Gange en Inde, mais beaucoup de Tibétains peuplent le massif himalayen, donc notamment aussi au Népal où tu as été. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de la diaspora, de la communauté tibétaine aujourd'hui ? Comment est-ce que ça se passe pour eux ? Est-ce que tu as l'impression que leur culture continue de vivre et d'exister ? Qu'est-ce que tu observes par rapport à la culture tibétaine et au bouddhisme tibétain ?
Alors, j'ai pas des liens très proches avec les Tibétains, même si la Suisse a accueilli énormément de réfugiés tibétains. C'est un des pays au monde qui a accueilli le plus de réfugiés. Par contre, c'est intéressant parce que Sa Santé le Dalai Lama a souvent dit que ça avait été une des bonnes choses en fait de ce gouvernement chinois, c'est d'avoir forcé en fait le Dalai Lama et d'autres maîtres à fuir le Tibet et à répandre le bouddhisme tibétain dans le monde. Ça a été vraiment sans ça, probablement que le bouddhisme tibétain ne se serait pas exporté autant. Donc dans ce sens-là, ça a été vraiment une chance pour nous d'y avoir accès plus facilement. Je pense que... Moi, j'ai été en Chine. Je voulais aller au Mont Kailash, qui est un lieu saint en Chine. Ça a été très, très difficile comme voyage pour moi. Pour ces lieux saints, je voulais aller aussi pour me rendre compte par moi-même. L'armée chinoise est omniprésente partout, fait des contrôles partout. Le voyage date un peu, mais je ne pense pas que ça ait changé. Il y a toujours des Tibétains qui s'immolent. Il y a des Tibétains qui veulent alerter l'opinion internationale pour obtenir du soutien et qui meurent en se mettant le feu. Moi, je n'ai pas observé ça directement. Par contre, j'ai observé parce que j'ai rencontré des Tibétains là-bas qui vivent... Il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de pratiquer leur religion, ils n'ont pas le droit d'avoir des photos de Sa Santé le Dalai Lama. C'est extrêmement difficile pour eux. Je me souviens d'un moine que j'ai rencontré dans un monastère qui m'a montré en cachette qu'il avait... et pour lui, c'était tout. Il était prêt à risquer sa vie, à être emprisonné pour une photo. La dévotion dans leur cœur est impressionnante. Dans le Lonely Planet, il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a un dessin de Sa Santé le Dalai Lama. Parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir des photos. On n'a pas le droit, en tant qu'étranger, d'avoir des photos de Sa Santé sur nous. Donc, quand on est en Chine, donc le Lonely Planet a, de façon très intelligente, détourné la chose en ayant un dessin. Et tous les Tibétains que j'ai rencontrés qui voyaient mon Lonely Planet me demandaient de l'ouvrir. Ils savaient exactement la page, le numéro de la page. Et ils prenaient le livre et ils le mettaient au-dessus de leur tête pour recevoir les bénédictions de sa sainteté. Donc pour moi, ça a été très touchant d'avoir ces rencontres-là, parce que c'est des gens qui continuent de pratiquer dans leur pays à l'insu des Chinois, ou en tout cas qui essayent de continuer ce chemin en cachette. Et c'était extrêmement triste et en même temps extrêmement inspirant de voir la force de ces gens. La force de leur dévotion, la force de leur foi. Mais c'était un voyage dur parce qu'il y a beaucoup d'oppression. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi voyager? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que ça t'a apporté?
Alors pour moi, le voyage, vraiment, ce que j'ai expérimenté dès le début, c'est sortir de sa zone de confort. Ça demande, en tout cas ça a demandé pour moi, et ça demande à chaque fois de quitter mes repères et d'être complètement ouverte. J'aime voyager en étant à la rencontre des gens. J'aurais pas du tout envie d'avoir un voyage organisé derrière des vitres teintées qui me font voir les monuments et prendre des belles photos. Pour moi, les voyages, c'est rencontrer l'autre. Et ça, de plus en plus, quand je voyage, j'essaye d'aller auprès des gens qui vivent dans les pays dans lesquels je vais, et de m'intéresser à la culture, de m'intéresser à la spiritualité, de m'intéresser à ce que les gens vivent, et de voir la beauté dans chaque endroit, et la beauté quand je rentre chez moi. Parce que je pense qu'avant de mon tout premier grand voyage, j'avais pas cette conscience que chez moi c'était aussi beau. Et je crois que revenir chez moi, je peux apprécier aussi encore plus, avoir cette gratitude pour toute la chance que j'ai. J'ai le souvenir d'avoir été au Bhoutan et de voir la condition des femmes au Bhoutan. Le Bhoutan est un pays magnifique, hein, mais la condition des femmes est extrêmement rude. Elles n'ont pas cette liberté que moi je peux avoir. Elles vont en gros être mariées, fonder une famille, avoir des enfants, travailler pour elles. Et comme c'est très libre le Bhoutan, on a pu avoir vraiment des échanges incroyables avec ces femmes. Elles sont éduquées, donc elles parlent anglais. Et c'était très beau d'avoir ces échanges, de pouvoir moi réaliser que d'autres femmes dans le monde ont vraiment pas, je le savais déjà, hein, mais là d'avoir avec des femmes en face de moi qui me renvoient ça, c'est encore plus de réaliser ma chance. Je crois que c'est vraiment cette ouverture de rencontrer l'autre dans tout ce qu'il est, dans ses souffrances, mais aussi dans toutes ses beautés, dans toutes ses ressources, dans toutes ses... quand on va en Inde et qu'on voit qu'il y a des gens qui ont rien, mais qui sont d'une joie incroyable. Pour moi, c'est une leçon de vie. Ouais.
Hein, on parlait de quête, de sens, d'alignement. En tout cas, ce qu'on recherche tous, c'est finalement d'être heureux et trouver le bonheur. Et tu disais, voilà, cet Indien que tu as rencontré qui n'a rien, ou cette femme en Birmanie qui n'a rien, et pourtant, il y a de la joie. Comment tu le définirais pour toi? C'est quoi le bonheur aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait pour le trouver, pour être bien et apaisé et heureux dans sa vie?
Alors pour moi, il y a plusieurs choses, mais je crois qu'il y a le fait de se sentir juste avec soi, d'être aligné avec ses valeurs et d'être dans cet amour. Je crois que plus je donne de l'amour, plus j'en reçois, plus je suis ouverte à offrir des choses, d'être dans la générosité aussi, c'est une des grandes valeurs dans le bouddhisme, mais d'être dans cette générosité plus... et c'est revenir à des choses simples, revenir au contentement. Tu me demandais aussi par rapport au yoga, mon nom de prof de yoga, c'est un océan de contentement. Et donc c'est une aspiration, hein, et je crois qu'elle est juste pour moi, vraiment, parce que quand on est dans le contentement, on a cette vision en Occident qui est un petit peu mauvaise, on se dit « ah, mais on va pas se contenter, il faut aspirer à plus, se battre ». Et en fait, pour moi, le contentement, quand je suis dans le contentement, je suis pleinement satisfaite. J'ai pas besoin d'avoir des désirs qui vont m'amener des souffrances, qui vont m'amener à être dans un manque. Quand je suis dans le contentement, je suis pleinement heureuse. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai reçu ce nom-là. Et la gratitude, je crois que c'est de pouvoir vraiment diriger son esprit. Dans le bouddhisme, on fait beaucoup de méditation pour familiariser son esprit. Hein, et on le familiarise avec quoi ? Eh bien, on le familiarise avec des états d'esprit positifs. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir être plus en joie, que je vais pouvoir être plus en paix ? Et alors, ça ne veut pas dire être dans le déni et puis je ne veux pas regarder certaines choses parce qu'on accueille tout, on observe tout. Mais qu'est-ce que je veux nourrir ensuite ? Comment je transforme ? Il y a des exercices de transformation. Et c'est ça qui est pleinement intéressant pour moi. C'est d'être dans ces états d'esprit positifs. Parce que quand j'ai plus de gratitude, quand j'observe les petites joies, que j'y suis plus sensible, hein, c'est un regard qu'on s'exerce à porter, eh bien ça change, ça peut changer une journée, et des journées, et des années.
Séverine, merci.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.